Chapitre 2. La gitane et le soldat. Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Baztán. Je m'appelle Don José Lizarra Bengoa. Et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c'est que j'en ai le droit. Et si j'étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur parchemin. Mes parents voulaient que je sois prêtre et me firent étudier, mais sans grand succès. J'aimais trop jouer à la paume. C'est ce qui m'a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais, nous oublions tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de la Lava me chercha querelle. Nous prîmes nos maquillas et j'eus encore l'avantage. Mais cela m'obligea de quitter le pays. Je rencontrai des dragons et je m'engageai dans le régiment d'Almanza, cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier, et on me promettait de me faire maréchal des logis, quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac à Séville. Si vous êtes allé à Séville, vous avez sans doute vu ce grand bâtiment-là, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble en voir encore la porte et le corps de garde à côté. Quand ils sont de service, les Espagnols jouent aux cartes ou dorment. Moi, comme un franc navarrais, je tâchais toujours de m'occuper. Je faisais une chaîne avec du fil de laiton pour tenir mon épinglette. Tout d'un coup, les camarades disent « Voilà la cloche qui sonne. Les filles vont rentrer à l'ouvrage. » Vous devez savoir, monsieur, qu'il y a bien 400 à 500 femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle où les hommes n'entrent pas sans une permission spéciale, parce qu'elles se mettent à leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. À l'heure où les ouvrières rentrent, après leur dîner, bien des jeunes gens vont les voir passer et essaient d'obtenir un sourire, un rendez-vous. Il y a peu de ces demoiselles qui refusent une mantille de taffetas et les amateurs à cette pêche-là n'ont qu'à se baisser pour prendre le poisson. Pendant que les autres regardaient, moi je restais sur mon banc, près de la porte. J'étais jeune alors. Je pensais toujours au pays et aux belles jeunes filles de chez moi avec leurs nattes tombant sur les épaules et portant la jupe bleue traditionnelle. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. Je n'étais pas encore habitué à leur manière, trop moqueuse, trop superficielle. J'étais donc le nez sur ma chaîne quand j'entends des bourgeois qui disaient « Voilà la gitanilla !» Je levai les yeux et je la vis. C'était un vendredi. Je ne l'oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blanc avec plus d'un trou et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, faisant les yeux doux, le regard aguichant et le poing sur la hanche, effrontée, comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, comme font les femmes et les chats qui ne viennent pas quand on les appelle, et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole. « Compère, me dit-elle à la façon andalouse, veux-tu me donner ta chaîne pour tenir les clés de mon coffre-fort ?»« C'est pour attacher mon épinglette, lui répondis-je. »« Ton épinglette ? » s'écria-t-elle en riant. « Monsieur fait de la dentelle, puisqu'il a besoin d'épingles. » Tout le monde qui était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir. Et je ne pouvais trouver rien à lui répondre. « Allons, mon cœur, reprit-elle. » « Fais-moi 7 aunes de dentelle noire pour une mantille, épinglier de mon âme. » Et prenant la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche, elle me la lança d'un mouvement du pouce juste entre les deux yeux. Monsieur, cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne savais où me fourrer. Je demeurais immobile comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassis qui était tombée à terre entre mes pieds. Je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai sans que mes camarades s'en aperçoivent, et je la mis précieusement dans ma veste. Première sottise. 2 ou 3 heures après, j'y pensais encore quand arrive dans le corps de garde un portier tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée, et qu'il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de prendre deux hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entré dans la salle, je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre le tonnerre. D'un côté, il y en avait une, les quatre fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer en deux coups de couteau. En face de la blessée que secouraient les meilleurs de la bande, je vois Carmen, tenue par 5 ou 6 commères. La femme blessée criait « Un prêtre, vite! Je veux me confesser! Ah, je suis morte !» Carmen ne disait rien. Elle serrait les dents et roulait des yeux comme un caméléon. J'eus grand-peine à savoir ce qui s'était passé, car toutes les ouvrières me parlaient à la fois. La femme blessée se serait vantée d'avoir assez d'argent en poche pour acheter un âne au marché de Triana. « Tiens !» aurait répondu Carmen, qui avait une langue bien pendue. « Tu n'as donc pas assez d'un balai ?» L'autre blessée du reproche lui aurait répondu qu'elle ne se connaissait pas en balai, n'ayant pas l'honneur d'être bohémienne ni filleule de Satan, mais que mademoiselle Carmencita ferait bientôt connaissance avec son âne, quand monsieur le corregidor l'amènerait à la promenade avec deux laquais par derrière pour les moucher. « Eh bien, moi, avait dit alors Carmen, je te fais tout de suite des abreuvoirs à mouches sur la joue, un beau damier rouge et blanc. » Là-dessus, vlivlant, elle commence avec le couteau, dont elle coupait le bout des cigares, à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure. Le cas était clair. Je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, lui dis-je poliment, il faut me suivre. » Elle me lança un regard comme si elle me reconnaissait. Mais elle dit d'un air résigné, « Marchons. Où est ma mantille ?» Elle la mit sur sa tête de façon à ne montrer qu'un seul de ses grands yeux, et suivit mes deux hommes, douce comme un mouton. Arrivé au corps de garde, mon supérieur me dit que c'était grave et qu'il fallait la mener à la prison. C'était encore moi qui devais la conduire. Je la mis entre deux dragons et je marchais derrière comme un brigadier doit faire en semblable rencontre. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord, la bohémienne avait gardé le silence. Mais dans la rue du Serpent, qui mérite bien son nom à cause de ses nombreux détours, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules, afin de me montrer son minois enjôleur. Et se tournant vers moi autant qu'elle pouvait, elle me dit « Mon officier, où me menez-vous ? » « À la prison, ma pauvre enfant, lui répondis-je le plus doucement que je pus, comme un bon soldat doit parler à un prisonnier, surtout à une femme. « Hélas, que deviendrai-je ? Seigneur officier, ayez pitié de moi. Vous êtes si jeune, si gentil. » Puis d'un ton plus bas, « Laissez-moi m'échapper, dit-elle. Je vous donnerai un morceau de la barlachie qui vous fera aimer de toutes les femmes. » La barlachie, monsieur, c'est la pierre d'aimant avec laquelle les bohémiens prétendent qu'on fait quantité de sortilèges quand on sait s'en servir. Faites-en boire à une femme une pincée râpée dans un verre de vin blanc, elle ne résiste plus. Moi, je lui répondis, le plus sérieusement que je pus, « Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes. Il faut aller à la prison, c'est la consigne, et il n'y a pas de remède. » Nous autres, gens du Pays basque, nous avons un accent inimitable qui nous fait reconnaître facilement des Espagnols. Carmen n'eut donc pas de peine à deviner que je venais des provinces. D'autant plus que les bohémiens, gens du voyage, parlent toutes les langues, quoiqu'ils ne soient d'aucun pays. La plupart sont chez eux au Portugal, en France, dans les provinces, en Catalogne, partout. Même avec les morts et les Anglais, ils se font entendre. Carmen savait assez bien le basque. « Laguna est née Piozzarena, camarade de mon cœur, » me dit-elle tout à coup. « Êtes-vous du pays ?»« Notre langue, monsieur, est si belle que lorsque nous l'entendons en pays étranger, cela nous fait tressaillir. »« Je suis d'Elizondo, » lui répondit Jean Basque, fort ému de l'entendre parler ma langue. « Moi, je suis d'Etchalar, » dit-elle. « Nous sommes voisins. J'ai été emmené par des bohémiens à Séville. » Je travaillais à la manufacture pour gagner de quoi retourner en Navarre, près de ma pauvre mère qui n'a que moi pour soutien, et un petit bar à chair, avec 20 pommiers à cidre. Ah, si j'étais au pays, devant la montagne blanche. On m'a insulté parce que je ne suis pas de ce pays de filous, marchands d'oranges pourris, et ces gueuses se sont mises toutes contre moi, parce que je leur ai dit que tous leurs Jacques de Séville, avec leurs couteaux, ne feraient pas peur à un gars de chez nous avec son béret bleu et son maquilla. Camarade, mon ami. « Ne ferez-vous rien pour une compatriote ?»« Elle mentait, monsieur. Elle a toujours menti. Je ne sais pas si dans sa vie cette fille-là a jamais dit un mot de vérité. Mais quand elle parlait, je la croyais. C'était plus fort que moi. Elle estropiait le basque, et je la crus navarraise, alors que rien que ses yeux, sa bouche et son teint la disaient bohémienne. J'étais fou. Je ne faisais plus attention à rien. Je pensais que si les Espagnols s'étaient avisés de mal parler du pays, je leur aurais coupé la figure, tout comme elle venait de faire à sa camarade. Bref, j'étais comme un homme ivre. Je commençais à dire des bêtises. J'étais tout près d'enfer.